sont un point.
C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes jeudi 6 juin, il est 18h et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U. Ce soir, en première partie d'émission, nous recevrons Aurélie Chedley, naturopathe de profession. Elle organise plusieurs ateliers au cours de l'année et entre autres tout au long du mois de juin. À Radio U, on a eu envie de s'y intéresser. La cocotte culturelle est de retour. Amateurs d'art aimant les surprises, nous vous invitons à rester avec nous en deuxième partie d'émission pour découvrir ce projet assez particulier. Marie, la présidente et cofondatrice de l'association Cocotte Culturelle, nous dira tout ou presque sur la future cocotte de la rentrée. Comme tous les jours en fin d'émission, nous retrouverons le rendez-vous de l'économie autrement avec le quatrième reportage de la semaine sur l'association Mada Brest. Alors restez avec nous, on commence l'émission en musique avec le titre Bad Girls de Kid Francescoli et on se retrouve juste après avec Aurélie sur Radio U. Vous écoutez C'est vous qui le dites sur Radio U et on vient d'entendre le titre Bad Girls de Kid Francescoli. Aurélie Chedley est avec nous ce soir en studio. Aurélie, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Léa, merci.
Alors, t'es naturopathe sur Brest et t'organises plusieurs ateliers au cours du mois de juin, on va en parler. Mais d'abord, je te propose qu'on parle un petit peu de ta profession qui n'est pas forcément hyper connue du grand public. Ouais. Alors pour commencer, selon le Larousse, et je cite, la naturopathie c'est l'ensemble des méthodes de soins faisant partie des médecines douces et visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels. Entre parenthèses, hygiène de vie, diététique, massage, phytothérapie, etc. Que penses-tu de cette définition ?
Eh ben, elle n'est pas trop mal, en fait. La naturopathie permet de réguler l'organisme à l'aide de méthodes dites naturelles. Donc, comme ils disent, il y a les massages qui rentrent en compte, les plantes, l'alimentation, beaucoup aussi. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas s'intéresser juste aux symptômes de la personne, on va aussi s'intéresser à pourquoi il est apparu et comment faire en sorte qu'il ne revienne plus. Donc, on ne se contente pas de faire disparaître, par exemple, des boutons sur le visage, on va aussi renforcer le terrain derrière, grâce à toutes ces méthodes naturelles, pour que le problème ne revienne plus par la suite et qu'on en soit débarrassé, entre guillemets.
Donc, faire une sorte de travail de fond.
C'est ça, c'est un travail de fond, et donc on intervient aussi en prévention, finalement, pour éviter toutes les problématiques qui peuvent apparaître. Donc, on n'attend pas d'être malade, forcément, pour aller voir un naturopathe. On peut aussi venir avant. Venir avant, en fait, pour renforcer son terrain et éviter, justement, d'être sans arrêt malade, d'avoir des allergies ou les petits rhumes qui traînent l'hiver. Enfin, voilà.
Et ce que tu appelles terrain, concrètement, qu'est-ce que c'est
Bonne question. Le terrain, en fait, ça va vraiment être... en fait, j'ai tendance à appeler ça plus vitalité. Donc, c'est vraiment la capacité de notre corps à se défendre des agressions extérieures. Le terrain, ça prend en compte aussi nos faiblesses et nos forces. Et donc, justement, on essaye de retrouver cet équilibre entre faiblesse et force pour essayer de faire une ligne droite dans un monde parfait, bien sûr.
Yes, ça vend du rêve dit comme ça.
Oui.
Alors, dis-nous, comment est-ce que toi, t'as découvert, en fait, cette pratique ?
Alors, du coup... Donc moi, ça m'est tombé dessus un peu, pas par hasard, mais à 14 ans, j'avais déjà envie d'être dans l'aide à la personne et tout ça. Je ne savais pas trop comment faire. Donc j'ai d'abord fait une école de graphisme parce qu'au début, je voulais faire art thérapeute. J'ai arrêté mon école de graphisme. J'ai fait une prépa aux écoles de psychomote après. Et finalement, en passant les concours, je me suis dit non, mais c'est pas du tout ça que je veux faire. Donc j'ai cherché un peu comment rejoindre une école d'art thérapie, puis un peu tout ce qui était médecine douce. J'aimais bien aussi tout ce qui était pratique énergétique. Donc j'ai cherché, et puis en fait j'ai trouvé la naturopathie qui englobait tout ça finalement, les médecines énergétiques, l'alimentation, le bien-être, la respiration, les plantes, enfin tout quoi. Et je me suis dit, c'est pas mal pour commencer finalement, parce que ça me permet d'explorer pas mal de techniques et trouver celles qui me plaisent le plus aussi.
Et aujourd'hui que tu t'es formée, tu pratiques, est-ce que tu saurais dire ce qui te plaît vraiment dans ça ?
C'est une question compliquée. J'aime beaucoup déjà en fait le fait de transmettre aux autres comment fonctionne leur corps, de comment en prendre soin. Vraiment aussi cette parenthèse de temps, les consultations et les ateliers pour moi c'est vraiment une parenthèse dans notre vie pour prendre soin de soi. Après, toutes les techniques que je fais, franchement, je pense qu'il n'y en a pas une qui me plaît plus qu'une autre. J'utilise autant les pierres que les cristaux, n'importe quoi, les pierres que les plantes, que l'alimentation. J'utilise vraiment beaucoup l'alimentation de base, mais j'utilise vraiment, vraiment beaucoup de choses et je ne peux pas dire laquelle me plaît le plus. Mais oui, vraiment, cette parenthèse de temps et puis offrir aux personnes qui viennent me voir une petite bulle, quoi, un espace de bien-être et s'écouter parce que tout va hyper vite, on ne prend plus trop le temps de s'écouter et ça fait du bien des fois de redescendre un peu dans son corps.
Carrément, ça a l'air. Alors, tu mentionnes un peu que des personnes viennent te voir. Concrètement, comment est-ce que ça se passe, ta pratique en fait ?
Ok. Donc, on en parlera tout à l'heure, je fais des ateliers et tout ça. Mais ma pratique, quand on vient me voir en cabinet, il y a une première consultation qui dure entre 1h30 et 2h. Et en fait, on fait un énorme, comment je pourrais appeler ça, check-up en gros. On parle vraiment de tout. Ça va de comment tu manges, à quelle heure tu te réveilles, comment est ton sommeil. On parle même de ce qui se passe aux toilettes. Enfin voilà, on parle de tout. On fait ce gros check-up pour voir vraiment l'état de la personne en général, comment ça se passe. On parle aussi beaucoup de l'émotionnel. En fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la naturopathie, donc elle ne prend pas que le symptôme, mais elle ne prend pas aussi que le physique en compte. Elle prend vraiment l'environnement social, la psychologie de la personne, l'émotionnel. Donc en fait, j'apprends à connaître la personne pendant 2 heures finalement. Et après, je la conseille. Donc il y en a qui viennent me voir, comme je disais tout à l'heure, avec des problématiques définies. Il y en a d'autres qui viennent voir juste par curiosité, qui ne savent pas trop, mais qui ont envie de prendre cette parenthèse pour eux. Donc ça, c'est la première consultation. Les personnes repartent avec des conseils. Des fois, on a le temps de faire des petits massages ou des petits soins, des exercices de respiration. S'ils en ont besoin, ce n'est pas vraiment une question de temps, c'est plus s'ils en ont besoin. Et par la suite, certaines personnes vont revenir automatiquement parce que c'est, elles en ont besoin, parce que c'est un cas un peu plus compliqué, entre guillemets, il y a déjà quelque chose qui est installé. Des fois, une consultation suffit, enfin, ça dépend. C'est pas mal aussi de faire en fonction des saisons de temps en temps, histoire de pouvoir réadapter tout ça, parce que notre corps n'a pas les mêmes besoins non plus en fonction des saisons. Donc voilà comment ça se passe, c'est une grande discussion et un temps pour soi. Et avec toutes les techniques que j'ai, je m'adapte aussi aux personnes qui viennent me voir. Je sais qu'il y en a, je travaille avec les fleurs de Bach par exemple, il y en a qui n'aiment pas ça, donc je trouve une autre technique. Enfin voilà, en fait, c'est un peu ça, pouvoir s'adapter à la personne en face aussi.
Oui, parce que donc, que ce soit ponctuel ou sur la durée, là, ça, on a l'impression que c'est un petit peu comme une thérapie. Et c'est une thérapie qui se passe comment ? Qui se véhicule par les mots, par,
Alors, par les mots, il y a aussi le corps, finalement, qu'on dit beaucoup. Par les mots, par le corps, par ce que les personnes mettent en place chez elles, parce que bah, c'est ce que je leur dis toujours, quoi. Enfin, ils sont devant la porte, ils ont les clés, et moi, je suis là juste pour leur montrer la serrure. Je ne peux pas du tout faire le travail à leur place. Donc, c'est aussi un peu une... Enfin, venir voir une naturopathe, pour moi, c'est aussi un peu se responsabiliser vis-à-vis de notre propre fonctionnement et de comment être bien avec nous-mêmes.
Yes.
Voilà.
Alors, en dehors des... Je ne sais pas si c'est le bon terme, thérapie. Peut-être pas. Du suivi
Ouais, des suivis, ouais.
Peut-être plus personnel. Tu organises aussi un certain nombre d'ateliers dont on va parler en détail. Mais un peu... Pour faire une sorte de petit teaser.
Pour faire une sorte de petit teaser.
Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu as eu l'idée de faire ça? C'est quoi un peu...
Alors, le tout premier atelier, il est parti des récréations naturaux, mais il n'y en a pas au mois de juin. C'était vraiment des ateliers que j'avais envie de dédier aux étudiants parce que les consultations naturopathiques, ça a un prix et que j'aurais adoré, moi, quand j'étais étudiante, apprendre comment fonctionnait mon corps et savoir quoi faire pour être bien, en fait. Et du coup, j'ai décidé de faire ça. Je me suis dit, en groupe, y a des interactions aussi, il y a plein de questions qui se passent. Donc, je proposais une thématique et le but, c'était après de voir avec les groupes qui se formaient, de faire différentes thérapies... Donc ça a été les récréations naturaux et puis en fait donc j'ai commencé par ça. Après je me suis dit mais j'ai plein d'idées d'autres choses, je suis hyper créative donc j'avais envie de rentrer aussi un peu plus dans la création, dans la fabrication de certaines choses. Donc du coup j'ai poussé la porte d'Écume Café, donc il y a un petit café dans le centre-ville qui vend des cafés éthiques, enfin voilà, du bon café, parce que j'ai aussi cette envie de travailler avec les acteurs locaux en fait, et vraiment pas de travailler avec les acteurs locaux, et enfin j'ai une démarche de consomme-action quoi, et pas juste de consommateur. Donc je trouvais ça intéressant aussi de mettre les ateliers d'ancrer là-dedans. Donc ça m'est venu comme ça, et puis en fait je sais pas, au fil des mois je me dis ça ce serait bien. Là je viens de créer Retour à la Terre, donc c'est des petits ateliers entre femmes en nature, parce que c'est les beaux jours, et voilà, je trouve ça génial de faire ça maintenant. Donc ça évolue au fil des mois en fait. L'idée de base c'était les récréations naturaux, mais tout a bien évolué.
Maintenant, il y en a vachement plus. Alors, t'en organises plein. On va en parler dans un petit instant.
Ouais.
Juste avant, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. On va écouter le titre Loud Pipes de Ratatat. Et on se retrouve juste après avec Aurélie sur Radio U. We'll be right back. Et on vient d'écouter le titre Loud Pipes de Ratatat et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'actu locale de Radio U. Je suis toujours avec Aurélie Chedley qui est naturopathe à Brest. Aurélie, est-ce que ça va toujours ?
Ça va et toi ?
Eh ben ça va super, merci. Il fait un petit peu chaud en studio mais mais c'est l'été, c'est pour ça. Alors, on parlait à l'instant de la naturopathie en général, un peu de ton intérêt pour. Et je te propose maintenant qu'on parle un petit peu plus en détail de tes ateliers, en tout cas ceux du mois de juin, ceux qui sont à venir.
Bien sûr.
Et parce qu'il y en a plein, en fait.
Oui,
je
oui.
Je
ne
sais pas, on peut parler d'émission, mais je m'en suis rendu compte. Et le premier à l'agenda, c'est celui de samedi 8, qui s'appelle « Retour à la Terre, c'est quoi, c'est pour qui ?» Dis-nous tout.
Donc, « Retour à la Terre », c'est un atelier qui va être uniquement pour les femmes. Donc, en fait, il y a depuis peu, je vais à des cercles de femmes et avec... L'ami justement qui organise ces cercles de femmes-là, on a créé un week-end bien-être pour les femmes. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas finalement développer ça aussi de mon côté, parce que j'ai lu plein d'ouvrages sur les sagesses féminines, sur les rituels qui se faisaient avant, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis je me rends compte qu'entre femmes, on a beaucoup de choses à se dire, et que des fois, au lieu de se comparer et de se taper un peu dessus, bah, ça fait du bien de parler à cœur ouvert. Donc j'ai décidé de créer cet atelier-là. Donc ça va se passer par une reconnexion à la nature, donc une balade en forêt, ce sera au bois de Kerwal. Ensuite, on fera une méditation guidée, un goûter, parce que quand même, c'est bien de s'alimenter un peu. Et on finira par une création avec ce qu'on trouvera dans la nature et ce que chacune de nous a envie de s'exprimer, parce que se reconnecter à la femme qu'on est, c'est aussi se reconnecter à sa nature cyclique, à son pouvoir de création et tout ça. Donc voilà, donc c'est un test.
C'est la première.
C'est la première, ouais. Pour celui-là, c'est la première.
Et donc, ça s'adresse à un groupe de femmes.
Un groupe de femmes, donc 7 femmes. Et au niveau des âges, bah, c'est à qui s'inscrit, en fait. Et je me suis rendu compte que, souvent dans mes ateliers, de toute façon, j'ai quasiment eu que des femmes, sauf sur deux, je crois. Et en fait, je me rends compte que peu importe les âges, on a toutes des choses à s'enseigner entre nous. Et du coup, j'ai pas voulu verrouiller ça à un âge en particulier.
Puis finalement, c'est un petit peu se reconnecter à la Terre, mais aussi aux autres femmes.
Aux autres femmes et à son cycle aussi.
Et à son cycle. Ouais. Ouais, c'est vrai, tu te rends compte que les femmes sont déconnectées de leur cycle ou...
Bah, un petit peu. Bah, y en a beaucoup. Y en a quelques-unes qui sont déconnectées. Mais en fait, le cycle, c'est pas que les menstruations et tout ça. C'est aussi vraiment notre nature cyclique, ce qui se passe dans notre corps, nos hormones. Enfin. Par rapport au mois, comment est notre cycle, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes choses. Et il y a plein d'archétypes qui rentrent en compte avec ça. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant de s'y reconnecter et puis de partager ça avec d'autres femmes et d'ouvrir aussi certaines à tout ça parce que tout le monde ne connaît pas.
Absolument, c'est pas forcément quelque chose d'enseigné ou même c'est assez tabou encore dans notre culture d'en parler et de vraiment se pencher dessus.
Complètement, ouais, ça reste encore assez tabou. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est encore un peu tabou et justement c'est un peu... casser ce tabou-là. J'aimerais bien aussi un jour peut-être m'intéresser aux plus jeunes justement qui viennent d'avoir leur menstruation pour essayer de casser ce tabou-là et puis qu'elles rentrent justement dans leur féminité avec un peu moins de complexe vis-à-vis de ça.
Un peu moins de honte en cours de sport.
C'est ça.
Yes, donc ça c'était l'atelier Retour à la Terre du samedi 8.
C'est ça.
Le lendemain, t'enchaînes.
Ouais.
Un sacré week-end avec un atelier qui s'appelle Un temps pour soi. Donc il y en a même 3 dans la journée.
Il y en a trois dans la journée, ouais. Parce qu'un temps pour soi, en fait, à la base, c'était des ateliers qui s'appelaient Lâcher prise. Donc, qui ont eu pas mal de succès. Je les ai fait 2 mois. À chaque fois, c'était complet. Du coup, je me suis dit, bon, je vais en faire plus dans le mois. Comme ça, ce sera mieux. Et je vais les renommer parce que, du coup, finalement, ça finit par dériver un peu, plus que sur le lâcher prise, mais aussi sur le fait de prendre du temps pour soi. Donc, en prendre du temps pour soi, il faut forcément qu'on lâche prise un petit peu. Et donc, c'est des ateliers qui s'articulent autour d'une activité créative. Donc, ça peut être du collage, de la peinture ou même de fabrication de totems, enfin de ce qu'on a envie en fait, juste laisser sa créativité s'exprimer un petit peu. Ensuite, on a une autre partie un peu plus naturopathique. Là, pour le coup, ce sera des créations de roll-on aux huiles essentielles pour se détendre.
C'est quoi un roll-on ?
Un roll-on, c'est un petit stick à billes en fait qu'on peut appliquer ensuite.
Roll-on.
Et donc les gens repartent avec ça. Et puis comme je sais que si par exemple j'ai des femmes enceintes ou des choses comme ça. Tout le monde ne peut pas utiliser les huiles essentielles. Je m'adapte aussi. On peut faire d'autres choses pendant l'atelier pour qu'elles aussi repartent avec leurs petites choses. Et la dernière partie de l'atelier, du coup, c'est une relaxation. Je me suis dit que c'était bien de faire ça le dimanche parce que ça permet vraiment de se poser, de finir la semaine et de repartir un peu mieux. Et pendant cet atelier-là aussi, on mange un petit peu.
Ok. C'est important.
Mais oui.
Donc, l'atelier Un temps pour soi, le dimanche 9 juin. Mais toutes ces infos, on les retrouve sur ton site.
On retrouve tout sur le site et sur la page Facebook.
On le dira tout à l'heure, yes, carrément. Pour celles et ceux, je ne sais pas si c'est que pour les femmes ou...
Là, c'est pour tout le monde.
Il y a qui voudraient plus de relaxation, c'est la fin de ma phrase. Donc là, c'est là que le doute persiste. le mercredi 12 et le jeudi 27, tu proposes un atelier de relaxation.
C'est ça.
Alors, c'est pour elle ou pour
elle ? C'est pour tout le monde. C'est des relaxations guidées du coup que je propose. Donc souvent, des fois on débute par un automassage, des fois par de la respiration. Et ensuite, par la voix, je guide les personnes en relaxation. Donc ça permet des fois de lâcher des choses, des fois juste de se reconnecter à ses émotions ou de repartir avec le sourire ou pas. Ça dépend des personnes, ce qu'on a lâché, ce qu'on a vécu dans la journée. Et ça permet encore une fois de se poser.
Ouais, on est trop stressé.
Ouais. On pense pas assez à se poser en fait. Et, c'est vraiment hyper important de prendre du temps pour soi et de savoir dire stop à un moment parce qu'on est sursollicité partout, par les téléphones, par les ordis, même dans la rue, pour ceux qui vivent en ville, par le bruit. Et, autour de Brest, on a la chance d'avoir des super endroits en plus pour aller se poser. Donc, faut y penser. Presque prendre un rendez-vous dans son agenda avec soi-même, une heure par semaine, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Un peu comme les petits et la sieste.
Ouais.
Et enfin, l'atelier qui m'avait fait à la base te contacter.
C'est vrai.
Parce que j'ai trouvé ça super curieux. Samedi 15 juin, l'atelier de lithothérapie et confection.
Ouais.
Alors, lithothérapie, qu'est-ce que ça peut bien
vous Alors, dire la lithothérapie, du coup, c'est les thérapies par les cristaux. Donc, en fait, il y a. Les cristaux ont des vertus. Alors, ils jouent tous sur un plan physique et sur un plan émotionnel, spirituel, on va dire. Par exemple, celle que j'ai autour du cou, c'est une citrine.
Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu ?
Alors, c'est une pierre qui est un peu jaune, transparente.
Ouais.
Du coup, elle est dans le collier qu'on va fabriquer à l'atelier. Donc, c'est un collier en macramé. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait un peu talisman. Enfin, voilà.
Absolument,
j'aime beaucoup.
La ficelle entoure, en fait,
la
pierre.
C'est ça. La ficelle entoure la pierre et j'aime bien. Donc, c'est ce qu'on fera à l'atelier aussi. Et la citrine, par exemple, elle est utile pour la confiance en soi. Voilà, pour un passage à la radio, ça peut être pas mal.
Et ça a l'air de fonctionner.
C'est ça. Et donc, chaque pierre a des vertus comme ça, selon leur couleur. Elles peuvent servir pour pas mal de choses. On peut les utiliser dans nos pièces à la maison pour protéger des endroits ou même, par exemple, le quartz rose pour faire jaillir l'amour un petit peu dans votre appartement. Ça peut être pas mal. Ou l'améthyste pour se détendre. Enfin, voilà, chaque pierre a un peu des vertus. Donc, à cet atelier-là, pardon, je vais présenter 7 pierres que j'ai choisies, qui pour moi sont importantes. Enfin, voilà, c'est vraiment des pierres avec lesquelles j'ai des grandes affinités. Comment on les utilise, qu'est-ce qu'on peut faire avec, parce qu'on peut méditer avec ces pierres, on peut les porter en bijoux, on peut les poser dans l'appartement, on peut faire plein de choses, on peut même en faire des élixirs, en fait, comme les fleurs de Bac, finalement, on peut faire des élixirs de cristaux. Et je vais aussi en parler de comment les nettoyer, parce que les pierres, elles prennent en fait un petit peu tout ce qu'on a, donc faut penser à les nettoyer, à les recharger, des fois même à les laisser dans la terre et puis fini, quand elles ont fini leur travail, c'est pas la peine de les sursolliciter. Et ensuite, à la suite de ça, donc je propose que chacun vienne avec sa pierre, donc les personnes peuvent me contacter avant si elles ont besoin de conseils pour telle ou telle pierre, selon ce qu'il leur faut en ce moment. Et on créera du coup notre petit collier en macramé parce que quand on fait du macramé, justement, l'esprit est fixé sur quelque chose et je trouve ça bien. Enfin, encore une fois, la créativité, ça permet de développer plein de choses, de se ressourcer, de se reposer. Et puis, on peut aussi mettre un peu l'intention qu'on veut dans son collier. Donc, c'est assez chouette et j'ai envie de faire découvrir ça à d'autres personnes.
Et carrément, mais alors, excuse-moi de la question un peu terre à terre. Mais toi, par exemple, qui portes ce collier autour du cou, est-ce que tu ressens une différence quelconque avec si tu ne l'avais pas ou est-ce que c'est
sens des différences et des fois je change même de pierre au fur et à mesure de la journée. Alors j'en ai pas 20 000 dans mon sac à main, mais quand je suis chez moi, parce que mon cabinet est à mon appartement, donc c'est un peu facile, c'est plus facile. Mais par exemple en consultation, j'ai souvent des labradorites qui sont des pierres de protection ou c'est la pierre du thérapeute en fait, ou des obsidianoïdes célestes selon ce que, enfin voilà, pour me protéger aussi des personnes que je reçois, des émotions qu'elles peuvent avoir. Et le soir, je vais porter des pierres un peu plus légères qui permettent plus facilement la relaxation ou des choses comme ça. Mais oui, je ressens les effets. Après, tout est... Ouais, ça reste du ressenti et de l'intuition et tout ça. Mais comme pour tout, je pense qu'il faut que chacun teste et voit ce qu'il ressent, en fait.
Voit absolument. Et donc, on peut venir à l'atelier sans avoir sa propre pierre. Juste venir...
Alors, c'est mieux de venir avec sa pierre parce que du coup, pour le collier, en fait, moi, j'ai pris... Je ne sais pas encore si vraiment il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas, j'en achèterai avant, mais c'est mieux d'aller choisir sa pierre et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de savoir à quoi elle correspond. On rentre dans un magasin de pierres où les pierres sont bien traitées, s'il vous plaît, où elles sont bien traitées entre guillemets, mais ou je ne sais pas, des boutiques spécialisées, c'est mieux quoi. Et on y va à l'intuition, en fait. Enfin, moi, je sais que des fois, j'ai acheté des pierres, au début, je savais même pas ce que c'était, et puis en regardant à quoi ça correspondait, je me disais, je suis quand même bien tombée, parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. Donc,
donc on peut aller un petit peu au pif, puis venir à l'atelier.
C'est ça, à l'intuition.
Et puis, éventuellement changer, tester en tout cas. Super, bon, on a fait un peu le tour des ateliers du mois de juin.
Ouais.
Tout à l'heure, en antenne, tu me parlais du fait que tu allais organiser des ateliers pour les étudiants l'an prochain. Alors, c'est l'an prochain, ça commence pas tout de suite, mais est-ce que tu en dirais deux, trois mots ?
Ouais, bien sûr. Bah, du coup, ça va être la suite des récréations naturaux. Ça va être des ateliers. Donc, avec la FEDEB, j'étais déjà intervenue à un événement qui s'appelait Prévenez-moi pour sensibiliser justement un peu sur la santé. On avait fait des relaxations et puis des ateliers sur la gestion des règles naturelles. Et donc, on aimerait bien justement transférer ce que je faisais aux récréations naturaux directement à l'intérieur de la fac. Et je peux pas trop vous en dire plus que ça, parce que les thématiques, je les ai pas encore. Et puis, on va voir tout ça en septembre à la rentrée des étudiants.
On verra, mais voilà, tout ce qui est sûr, c'est que c'est réservé aux étudiants et pour un budget aussi étudiant.
C'est ça, pour un budget étudiant, ouais.
Voilà. Et ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour la fin ?
Moi, je veux juste parler du week-end bien-être, rapidement, si c'est possible. Donc, j'en ai vite fait parler avec Retour à la Terre, mais du coup, ouais, on va organiser ça avec une autre Aurélie. Donc, du coup, on a décidé d'appeler ça les Rencontres Dorées. L'éveil des sens féminins. Okay. Donc, ce sera sur 3 jours. On va proposer des activités. Donc, il y aura des cercles de parole entre femmes, des méditations, des relaxations, des balades aussi sensitives en nature, parce que c'est dans un lieu très vert qu'on fait ça. Et vraiment, le but, c'est aussi d'exprimer sa créativité, d'exprimer exprimer sa féminité, se reconnecter à sa féminité, puis de prendre du temps pour soi avec d'autres.
Yes. Et donc, ça, c'est quand tu peux...
Alors, ça, c'est du 4 au 6 octobre. Par contre, c'est pas sur Brest, c'est à Locronan.
Ok, donc on a le temps. Et donc, pour s'inscrire,
Pour s'inscrire, en fait, il y a tout sur le site. Donc, sur mon site peut vous emmener vers une plateforme de réservation où il y a tout ce que je propose et tout ce qu'on propose pour les rencontres dorées aussi.
Voilà, le site. Alors, on ne retrouve pas tout de suite l'accès à ton site par notre page Facebook sur Radio U, mais on a un accès en tout cas à ta page Facebook.
Ouais.
On a tagué dans le post d'aujourd'hui.
Ouais.
Voilà, donc qui est intéressé, et puis même pour avoir juste des informations,
c'est ça.
En lire un petit peu plus sur tes activités ou la naturopathie. Ton site est très beau d'ailleurs. On voit que tu as fait des études de graphisme.
Ouais.
Voilà, merci beaucoup Aurélie d'avoir été avec nous dans C'est vous qui le dites. Je le répète une dernière fois, toutes les infos te concernant, on peut les retrouver sur ton site et ta page Facebook et ton Instagram.
Instagram, ouais. Ouais. Donc Instagram, c'est Aurélie SC-du-bas naturopathe.
Yes, et C'est vous qui le dites, ça continue. Dans un instant, nous allons parler de la cocotte culturelle de la rentrée. Juste avant, je vous propose d'écouter le titre « La Malinche » de Feu Chatterton. A tout de suite sur le 101.1.
Madame, je jalouse le vent qui vous caresse prestement la joue. Des provinces andalouses, panaméricaines, ce vent suave et si doux. Madame, je jalouse. Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Quand je reste à Paname. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Chaque missive la vois-je. À chaque missive la vois-je. Je crains de vous causer l'ennui. Et cette attente comme un missile endolorit ma tête, vrai-je, vrai-je. Endolorit ma tête, vrai-je, vrai-je. Que deux fois passe le jour et vienne la nuit. Passe le jour et vienne la nuit. Me reviennent toi sur l'autre rive et tu avec un autre. Les choses nous échappent, pourquoi les retenir par le bout de l'écharpe si tu te venir étrange. reste à Paname. Fortune. Tu sais de mémoire ancienne te méfier des braves de leur soif inopportune. Combien de lâches sont venus ici courir chimère à coups de fusil. Ivres de gloire ont-ils pensé que ton cœur serait conquis, percé de flèches et de rancœur, comme tes côtes mexicaines de Malinche, de Malinche. Il n'y en aura qu'une.
Et vous êtes sur Radio U, vous écoutez C'est vous qui le dites, et on vient d'entendre le titre La Malinche de Feu Chatterton. Marie vient de nous rejoindre en studio. Bonsoir Marie et bienvenue.
Bonsoir Léa.
Alors, faire se rencontrer le public et les artistes ou le secteur culturel brestois, c'est une des vocations de la Cocotte culturelle. Et pour ce faire, vous avez une manière bien spéciale, on va en parler tout de suite avec toi, donc, qui est présidente et cofondatrice de l'association La Cocotte culturelle. Je me mélange dans mes notes.
Hein. Pas de souci. Tout va bien.
Pour commencer, une cocotte culturelle, c'est quoi ?
Alors, une cocotte culturelle, donc déjà, c'est à la base une association. C'est une équipe de bénévoles et c'est un travail qu'on mène depuis 2 ans et demi et on propose tous les 3 mois, donc 3 fois par an, un panier culturel. Alors, qu'est-ce qu'un panier culturel ? Donc, c'est un panier qui était sous une forme de tote bag au début, et maintenant, ce sont des pochettes vinyle customisées.
Waouh !
Et donc, dedans, vous pouvez trouver donc, des œuvres locales, brestoises, de différentes structures, et donc, il peut y avoir du spectacle vivant. Donc, ça peut être des places de spectacle, marionnettes, cirque, danse, théâtre. Ça peut être aussi des visites de structures culturelles. Il peut y avoir de la littérature sous forme de livres, BD, enfin voilà, tout ce qui est possible, imaginable. De l'art pictural, donc avec des dessins, des gravures, de la peinture, des visites de musées. Ensuite de la musique, donc des CD, des places de concerts, des visites de lieux brestois. Et puis, j'en oublie toujours un, le cinéma. Voilà, donc pareil, DVD, place de cinéma, place de festival.
Et donc le principe, c'est qu'il existe ce plutôt de bagues, mais tu disais sac en vinyle avec des objets et des tickets dedans.
Oui.
Mais quand on le commande, on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
C'est un panier surprise. Donc on le commande en avance et ensuite on vient le chercher à une soirée. En présence des artistes du panier, qui permet de se rencontrer, de présenter le travail des artistes, et puis surtout d'échanger et de boire un petit verre qu'on offre et de passer un moment convivial à se rencontrer dans des lieux brestois aussi. Voilà, donc on a pu faire ça dans des lieux comme le Mouton à 5 pattes, le BH Café, la Maison pour tous Saint-Pierre, le Boucan au coin de la rue. Et puis bah, celle de la rentrée, ce sera dans un lieu qu'on cherche encore, mais qu'on va bientôt trouver.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, on peut déjà commander la nouvelle cocotte, mais la soirée de remise des cocottes, je ne sais pas comment exactement vous...
Oui, c'est ça, on l'appelle la cocotte party.
La cocotte party, ce sera en octobre.
C'est ça.
Donc y a le temps, on a le temps d'oublier qu'on l'avait commandé.
Ah oui, complètement. Oui,
et
oui.
Puis de se dire, ah, un cadeau qui arrive à ma porte.
Oui, c'est ça.
plein de
c'est ça, avec une petite piqûre de rappel par mail. N'oubliez pas votre panier.
Cocotte, c'est quoi déjà ça? Ah, mais oui.
Ouais. Oui, parce que parfois, donc, on peut s'acheter un panier pour soi, mais on peut aussi acheter un panier pour les autres. Là, sur le panier actuel, c'est vrai que les délais sont longs pour les commandes, mais c'est parce que on vient de terminer la précédente. Et voilà, donc ça se commande jusqu'au 25 septembre et la soirée est le 5 octobre.
Voilà, donc on peut prendre son temps pour réfléchir.
Oui, c'est ça.
Alors, moi, ça me fait un peu penser à un fonctionnement d'AMAP. Je ne sais pas si c'était vous ou pas.
Alors.
Dans lequel on. Bon, là, pour le coup, on s'inscrit, c'est régulier, mais c'est l'idée aussi quand même de commander à un certain nombre de producteurs des choses et puis on verra bien le jour même, quoi. On prend ce qu'il y a. Est-ce que c'était, quand vous avez créé le projet, vous aviez cette idée ou comment ça s'est passé ?
Alors, à la base, c'est inspiré, oui, des AMAP, de ce panier de légumes, mais sauf qu'on a supprimé les légumes pour mettre des œuvres artistiques et locales. Ensuite, alors, nous, on fonctionne par one shot, soit on prend juste un panier, soit on peut en prendre trois. C'est comme souhaitent les gens. Mais oui, ça a été inspiré des AMAP, et puis il existe des paniers culturels à travers la France, en Belgique, en Suisse. Et donc souvent, quand on présente pour comparer aux AMAP, pour que les gens comprennent aussi ce qu'est le panier culturel.
Oui, carrément. Et alors, comment est-ce que... Donc vous êtes en équipe, oui. Toi t'es présidente, mais il y a plein d'autres gens avec toi. Quelques autres gens, vous êtes combien ?
On est 7.
Ouais.
Ça change. Au début, on était 4. Maintenant, on est 7 bénévoles. Voilà, on est essentiellement composé de filles. On a quand même un mec. On a réussi à avoir un mec.
Bravo.
Qui s'occupe du site, enfin, qui nous a créé le site internet.
Ah, le mec à la programmation.
Voilà. mais on ne refuse pas les garçons, hein, au contraire, c'est toujours un plaisir. Mais c'est vrai qu'on est une équipe de filles, on est surtout une équipe de copines, parce que c'est un plaisir aussi cet asso, et que la programmation, l'organisation prend du temps, et que c'est important qu'on s'amuse et qu'on prenne du plaisir. Donc souvent, nos réunions, ce sont des goûters réunions ou des repas réunions, mais voilà, enfin, on fait ça dans un état d'esprit convivial qu'on essaye aussi surtout de véhiculer et de transmettre lors des soirées.
Mais alors justement, comment est-ce que vous choisissez ce que vous allez mettre dans la cocotte ? Sans nous dire ce que vous y mettez, mais est-ce que vous concertez ? Comment ça se passe ?
Alors, y a plusieurs choses. Donc, déjà, on se concerte, ça c'est sûr. On décide ensemble. Donc ce qui est intéressant parce que parfois on est toutes d'accord et parfois pas du tout. Il y a plusieurs possibilités. Soit on nous propose des œuvres ou on nous contacte pour travailler avec nous. Donc dans ces cas-là, on écoute ce qui est proposé, on regarde, on va voir les spectacles, on en discute. Et après, on choisit entre nous. Donc on fait souvent à l'intuition. On fait souvent en pensant au public qui achète nos paniers. Et puis, en fonction des périodes, parce que voilà, pour la cocotte de la rentrée, ce sera possible de profiter de ces œuvres de septembre à décembre. Donc voilà, il faut qu'il y ait aussi la période. Et puis, parce que c'est un panier avec 5 œuvres minimum. Donc en termes de cohérence, de programmation et puis de tarifs, on fait en sorte que Donc il y a cette option. Et puis il y a aussi nous qui prospectons. On se dit, ah tiens, j'aimerais bien travailler avec cet artiste. Ah bah tiens, il y a cette personne qui fait ça.
C'est ouvert à des propositions, par exemple, venant de toute la France, du monde entier, ou vous êtes... Parce que tout à l'heure, tu disais le mot local.
Oui.
Est-ce que c'est local brestois, finistérien? Comment ça se passe?
Alors, c'est local brestois. C'est un panier culturel brestois. Mais on ne reste pas non plus cloisonné, c'est-à-dire que c'est pour faire découvrir la culture locale ou redécouvrir, et puis pour proposer un lot d'œuvres culturelles. Mais s'il y a un groupe de Clermont-Ferrand qui vient jouer dans une salle brestoise, il est carrément bienvenu dans la cocotte, hein, il n'y a pas de souci.
Carrément. Alors, justement, on va faire une petite pause musicale. On va écouter le titre Bad Girls de Kit Francescoli. On l'a pas joué. Oui. Et on se retrouve juste après avec Marie de la cocotte culturelle brestoise sur Radio U pour en connaître un petit peu plus sur cette super cocotte. À tout de suite. When will this old love finally let me be? Did you think you'd get me back? Patronizing me like that. When will this old love finally set me free? Did you give yourself a rash when you were talking up that trash? That's enough about good girls and bad girls. You pick what's
think I am. That's enough about good girls and bad girls. You sweats, motherfucker. Enough about good girls and bad girls. That's enough about good girls and bad girls. You sweats, motherfucker. Enough about good girls and bad. That's enough about good girls and bad girls. You sweats, motherfucker. Enough about good girls and bad girls. That's enough about good girls and bad girls. You sweats, motherfucker. Enough about good girls and bad girls.
Voilà, on vient de réentendre le titre Bad Girls de Kid Francescoli.
Mais parce qu'on l'adore.
Ah oui, c'est génial.
Et que les Bad Girls, bah, c'est trop bien.
Voilà, absolument, c'est un titre qui colle avec cette émission.
C'est ça.
Vous écoutez, c'est vous qui le dites sur Radio U. Et je suis toujours avec Marie pour parler de la cocotte culturelle de la rentrée, mais qu'on peut déjà commencer alors que c'est alors que c'est la fin de l'année. Alors, depuis tout à l'heure, on en parle, mais on n'a pas encore parlé du prix. Et je vais te demander combien elle coûte et à quoi sert l'argent que vous récoltez.
Alors, il sert donc. Alors, je vais déjà commencer par les paniers. Donc, on a trois propositions de paniers. On a un panier qui s'appelle la cocotte solo, donc avec 5 œuvres à l'intérieur, 1 à 2 bonus qui sont des œuvres exclusives vraiment dédiées au public de la cocotte. Donc lui est à 36.
Bravo.
Je ne sais plus, c'est la fin de la journée. 36€ ou 38, je ne sais plus. Là, ma trésorière va me tirer les oreilles.
De toute façon, ça c'est des détails pratiques.
C'est des détails pratiques en ligne. Pratique.
Voilà. Voilà. Entre 30 et 40, quoi.
C'est ça, c'est
douche.
Ça. Donc pour une personne. Ensuite vous avez la cocotte duo, donc pour deux. Donc c'est le même contenu que la solo, sauf qu'il y a la place de spectacle en plus, qui est à 44. Et ensuite il y a la cocotte explo. Ça c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à gérer toutes les sorties culturelles, qui y a juste des œuvres matérielles, ou pour les gens qui habitent loin, qui elle est à 30€ et qu'on envoie par la poste, ou qu'on peut venir chercher à la soirée. Tout dépend. Donc voilà. Et alors l'argent, bah, qu'est-ce qu'on en fait de l'argent des gens ?
Vous investissez à Wall Street. Hein,
parce que c'est super important. Parce qu'on a aussi conscience que ces paniers, 40€ à sortir, c'est quand même pas évident. Après, on a fait en sorte que les paniers soient le moins chers possible. Mais avec 5 œuvres à l'intérieur, c'est vrai que bon, voilà, ça représente un coût aussi. Et puis, il faut savoir qu'on négocie en amont le prix des œuvres. C'est-à-dire qu'on a pu mettre une place de spectacle qui coûtait 20€ à 10€, une œuvre à 45 à 5€. Et ça, c'est le deal avec les artistes et les structures, c'est qu'on rend accessible la culture et aussi on fait un petit plus financier. Et donc l'argent, il y a 95% qui revient aux structures culturelles avec qui on travaille en fait. Enfin voilà, et les 5% restants, c'est pour faire nos petits flyers et gérer notre assurance d'association et l'administratif.
Voilà, parce que vous êtes tous et toutes bénévoles, tout dans cette association.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc tu parlais à l'instant de structures partenaires, vous avez des partenaires ?
Oui, on a travaillé depuis 2 ans et demi, donc on en est au 7e panier. Il y a eu aussi un panier pour le jeune public. Et donc, on a travaillé avec une 50aine de partenaires. Oui, on a pu alors travailler avec à la fois des grosses structures et des plus petites pour équilibrer les paniers, à la fois faire découvrir et aussi permettre aux personnes de dire « Ah bah tiens, je peux aller dans cette grande salle de spectacle où je n'ose pas aller ». Donc, on a pu travailler avec des sociétés de production brestoises, comme Paris-Brest, avec une artiste qui fait de la gravure, qui s'appelle Simone Montes, avec l'édition Brest Safari ou Sixto Édition, avec Le Petit Minou, des compagnies. La carène, le quartz, la maison du théâtre, dialogue, le maquis, et puis voilà, plein, j'en passe beaucoup, et je m'excuse pour ceux que j'ai pas cités.
Toutes les institutions culturelles brestoises travaillent ensemble.
C'est ça.
C'est le miracle de Brest.
Et puis aussi des festivals, le musée des Beaux-Arts, enfin voilà.
Petite question, si on est artiste et qu'on voudrait bien que son œuvre elle soit dans la cocotte, est-ce qu'on peut vous contacter ?
Oui, bien sûr qu'on peut nous contacter. On a une adresse mail qui est sur notre site internet. On peut nous envoyer un mail, on a un Facebook, on a Instagram, on peut nous contacter. Et puis aussi, on peut venir nous voir lors des soirées pour un contact un peu plus direct. Voilà.
Donc la cocotte, je le rappelle, c'est le tout début. Vous venez de la lancer, la cocotte de la rentrée. On peut la commander en ligne. Et la soirée de restitution, c'est bizarre comme terme, ce sera le 5 octobre prochain. Oui. Une soirée dans laquelle, c'est pas seulement on nous donne un sac et puis ciao, c'est vraiment une soirée conviviale dans laquelle on rencontre les personnes qui ont créé le contenu du sac, c'est ça ?
C'est ça.
Et comment ça se passe un peu ces soirées concrètement ?
Alors, on convie les artistes, les personnes qui ont acheté, les partenaires. Les gens arrivent tranquillement. On les accueille avec un petit verre offert parce que il y a pas à dire, mais ça commence par là.
Voilà.
Et puis on leur fait choisir leur panier parce que ce sont des pochettes vinyle différentes à chaque fois. Et puis après, on présente l'association, on présente chaque structure avec des démonstrations musicales, un spectacle. La dernière fois, il y a eu les visites des coulisses d'un marionnettiste, donc il a fait un petit spectacle de marionnettiste. Il y a eu une personne Olivia Milone, qui nous a fait une aquarelle. Et si on mettait toutes les aquarelles les unes après les autres, ça faisait un petit film d'animation. Elle l'avait conçu exprès pour la cocotte, donc on a montré ça. Voilà, il y a tout ce temps d'échange. Et puis après, on re-offre un verre. Et puis surtout,
ça continue aussi.
Et on papote, voilà. Et on continue tous ensemble.
Et donc, on peut avoir l'occasion de parler à une personne en particulier, un artiste ou une
structure. C'est ça. Et puis, les artistes vont vers les publics. Les personnes vont aussi vers les artistes. Enfin, voilà, on casse un petit peu toutes ces frontières. On va pas juste voir un spectacle et on rentre chez soi. Enfin, on rend accessible les échanges et c'est pour ça que les lieux de remise sont très importants pour nous, parce qu'on veut des lieux un peu culturels, sociaux, conviviaux, des cafés. Enfin voilà, c'est assez important.
Ouais. Et donc lieu à communiquer pour le prochain.
Oui, alors ça s'est peaufiné aujourd'hui, mais je peux pas trop dire. Mais ça va être un lieu, je pense, très très bien, qui sera probablement dans le quartier de Recourance. Qui sera une espèce de lieu pépinière artistique. Voilà. Mais de toute façon, toutes les informations sont sur le site. Et puis après, on communique. Je pense que ça peut être sympa. Et on va en profiter pour fêter les 3 ans de l'asso, ce qui n'est pas rien. Donc, on offrira peut-être un troisième verre. Non, je rigole. La trésorière va encore me tirer les oreilles. Mais voilà, c'est vraiment important. Et puis, on est sur de la vente en ligne. Donc, quand on vend un panier, il y a un mail qui apparaît, genre telle personne a commandé tel panier. Et c'est super agréable de rencontrer cette personne à la soirée. Voilà, c'est bon.
Yes, 3 ans, ça y est, vous savez marcher.
Oui, c'est ça. Enfin, ça dépend.
Ah ouais, bon.
On apprend encore.
Des fois, on tombe encore, mais c'est
on apprend encore.
Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Enfin, on pourrait encore en parler, j'ai l'impression, mais surtout, on n'a plus trop le temps.
Non, oui.
Marie, est-ce que tu as un petit mot pour la fin ?
Écoute, déjà te remercier de m'avoir invitée sur l'émission.
C'était mon plaisir.
Remercier mon équipe, qui est vraiment une équipe de choc. Elles sont pleines de vie, elles sont présentes. Et puis, parce que c'est quand même du gros boulot bénévolement, même si on prend du plaisir. Et puis surtout, ne pas hésiter à s'essayer au panier culturel. Hein. Je sais que le côté surprise peut faire peur, mais il y a des gens qui prennent 1, 2, 3, 4 paniers à la suite. Donc, on se dit qu'on n'était pas si mauvaise que ça.
On peut voir le contenu des paniers des années précédentes sur le site, je crois.
Oui, bien sûr, il y a les photos, les contenus.
Pour avoir une idée un petit peu de ce qui s'est fait déjà.
Ça change à chaque fois. Après, il y a aussi des gens qui n'aiment pas, hein, ça arrive.
Les surprises, Noël, les anniversaires.
Voilà, mais il ne faut pas hésiter à commander un panier, à découvrir et puis à nous faire de la com, parce que c'est vrai que c'est un sacré taf, la communication, et on en a bien besoin. Et puis voilà, rendez-vous le 5 octobre.
Eh bien, carrément.
Pour la cocotte partie numéro 7.
Eh bien, carrément. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été avec nous dans C'est vous qui le dites. La soirée de remise du panier, ça sera le 5 octobre. Mais en attendant, la cocotte culturelle, elle est déjà commandable en ligne sur votre site cocotteculturellebrest.com. Voilà.
C'est cela.
Et puis toutes les infos, bien sûr, qui sont relatives à l'association, la cocotte, vos actions, tout ça, tout ça, tout ça.
Tout ça, tout ça, tout ça.
Voilà. Et c'est déjà la fin de cette émission. Vous pourrez la réécouter en podcast sur le Mixcloud de C'est vous qui le dites dès demain. Si vous souhaitez passer dans l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer votre proposition par mail à l'adresse redaction.radiou@gmail.com. N'hésitez pas à suivre Radio U sur Facebook pour être au courant de toute l'actualité, des jeux concours et autres événements. Alors exceptionnellement, il n'y aura pas de quotidienne demain. On se quitte quand même avec un reportage sur l'économie autrement, réalisé par la Corlab. À Madabrest, nous essayons de comprendre comment se créent les inégalités alimentaires sur un même territoire et comment l'association tente de les analyser pour mieux les contrer. Bonne écoute, bonne soirée sur Radio U et à mardi 18h.
L'alimentation autrement, une série de reportages sur l'alimentation durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire en Bretagne.
L'emballage, quel conditionnement choisir ? Le vrac ou à la découpe sont souvent moins chers. C'est aussi moins d'emballage, moins de plastique pour participer à la réduction de nos déchets. Préférez les fruits et légumes non calibrés. Les normes de calibrage favorisent le gaspillage d'une partie de la production agricole.
Alors aujourd'hui, on se retrouve à Brest. Donc je m'appelle Marlina Bivin, je suis coprésidente de l'association Madabrest, donc qui est une jeune association qui est née au mois de février, qui est née de la rencontre que j'ai eue avec Marketa Brain Subkova, donc la porteuse de projet, la fondatrice de ce projet sur Brest. Donc en tant que coprésidente, je m'occupe des aspects, on va dire, administratifs et puis voilà, gouvernance de l'association. Et j'ai un peu plus en charge un outil qu'on essaye de développer qui est l'indice EAT. Alors EAT, ça s'écrit E-A-T pour équité alimentaire territoriale. Donc avec cet indice, on va essayer de mesurer effectivement l'accès réel aujourd'hui, là on est en mai 2019, des Brestois à une alimentation durable. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire, alimentation durable? Sinon, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, tout simplement? De quoi ils ont besoin? Est-ce que c'est plus de magasins, de proximité, plus d'informations, ou juste voilà, des moyens pour pouvoir utiliser des fruits et des légumes de saison, par exemple, des recettes, des idées, etc. Et donc, on fait une enquête grand public qui est lancée depuis la semaine dernière, depuis jeudi dernier. Est-ce que, ben voilà, moi je suis une femme active, par exemple, avec des enfants, je travaille. Est-ce que les magasins sont ouverts à 19h15 le soir quand je rentre chez moi? Et plein de petites choses comme ça qui peuvent intéresser tout le monde. Est-ce que j'ai l'information nécessaire de ce qui se passe sur mon territoire et des initiatives qui existent et de où je peux me procurer cette alimentation durable? Donc ça, c'est l'accessibilité via l'information. Enfin, on a l'accessibilité sociale et culturelle. Donc c'est, est-ce que juste ça m'intéresse? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça fait partie de mes priorités? Ou est-ce que je préfère aller manger au McDo? Et puis, l'accessibilité psychosociale. Alors là, c'est plus sur la compétence des personnes à se saisir de ce sujet-là de l'alimentation, à se dire que c'est vraiment quelque chose qu'ils font pour eux, pour leur bien-être. Et aussi pour la planète, bien sûr, mais pour leur bien-être, et qu'ils savent mettre en œuvre les compétences qu'il faut de cuisine, de conservation des aliments, de quantité à acheter pour ne pas gaspiller, voilà, plein de choses comme ça. Et donc, à travers ce fameux questionnaire-là qu'on a lancé jeudi dernier, on va mesurer ces 5 déterminants de l'accessibilité alimentaire. Et du coup, non seulement ça va nous permettre de savoir aujourd'hui quels sont les besoins des Brestois, on va pouvoir l'étudier à l'échelle d'un quartier, à l'échelle du centre-ville, à l'échelle de l'ensemble de la métropole. Mais on va pouvoir aussi faire un indice qu'on puisse reproduire tous les ans. Donc on va faire l'enquête tous les ans et comme ça mesurer aussi l'efficacité de notre action. Voilà, c'est pas tout d'en dire qu'on fait des cours de cuisine dans les maisons pour tous ou qu'on met l'information à disposition sur un site internet. Encore faut-il vérifier que ça sert vraiment et que les pratiques changent sur le terrain.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab en partenariat avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement, le soutien de l'ADEME, de la DREAL et de la DRAF Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.